commence là, in utero. Nous venons tous de là. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliers de milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous sommes nés et nous sommes devenus des bébés. Quel bébé étiez-vous? Est-ce que vous vous en souvenez? Non, hélas non. Nous ne nous souvenons pas de nous bébés. C'est l'une des plus grandes énigmes de la vie. C'est comment d'être un bébé? Je m'appelle Zoé Varier et je vous propose de vous mettre à l'écoute des bébés. Et pour mieux entendre ce qu'ils ont à nous dire, peut-être faudra-t-il que vous fassiez appel à la part de bébé qui est en vous. Vous vous demandez peut-être ce que je fais là, dans cette volière remplie de canaris. Quel rapport peut-il bien y avoir entre les oiseaux et les bébés ? A priori, pas grand-chose. Et pourtant.
Donc, on est deux par bureau. En général, on met un développementaliste et un éthologue dans le même bureau. Donc, moi, j'ai été embauchée en tant qu'éthologue. Je suis avec une psychologue du développement qui travaille sur le développement du langage chez les bébés.
Lauriane Radfischer est éthologue et membre du Babylab de l'Université Paris-Nanterre. Elle étudie les comportements des êtres vivants, aussi bien celui des êtres humains que celui des animaux. Et cela fait sens de travailler sur les deux.
En fait, ça aide aussi à appréhender chez l'humain le développement de leurs capacités cognitives. Parce qu'en trouvant qu'est-ce qui est spécifique à une espèce, de quelle façon ça se développe, et est-ce que c'est différent chez deux espèces qui ont la même capacité, ça nous permet d'essayer de mieux appréhender les mécanismes. C'est-à-dire comment ça se met en place. Et ça, c'est important de comprendre en fait comment les choses se mettent en place pour pouvoir, par exemple, de façon plus appliquée, ensuite aider des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage. En fait, c'est d'essayer de comprendre comment est construit notre cerveau, comment sont construites nos capacités, en fait, d'essayer vraiment d'aller vers les mécanismes. Comment ça se développe chez différentes espèces, comment ça se met en place.
Ça veut dire que vous ne vous intéressez pas seulement au cerveau humain?
Non, tout à fait. Moi, j'enseigne aux étudiants de psychologie. Et quand j'enseigne aux étudiants de psychologie, j'ai par exemple un cours sur le développement du cerveau à tous les âges de la vie. Donc, c'est chez l'humain. Mais je cite sans arrêt, je fais des allers-retours entre les études chez l'humain et les études chez l'animal. Pour une raison simple déjà, c'est qu'on ne peut pas tout tester chez l'humain, pour des raisons éthiques. Et donc on a des études chez l'animal qui nous permettent d'avancer, en fait, de mieux comprendre ce qui se passe chez les mammifères en général et chez l'humain en particulier. Et donc je suis sans arrêt en train de faire ces allers-retours entre le cerveau de l'humain et le cerveau de l'animal. Et ça me paraît en fait fondamental pour vraiment essayer de comprendre comment on fonctionne.
C'est donc un tout autre point de vue sur les bébés humains que je vous propose dans cet épisode. Et d'ailleurs, pour être fidèle à la pensée des éthologues comme Lauriane Radfischer, je devrais plutôt dire bébé primate humain. La difficulté, quand on travaille avec les bébés primates humains, c'est qu'ils ne parlent pas. Nous avons rencontré dans les épisodes précédents de ce podcast des scientifiques qui, pour comprendre ce qui se passe dans la tête des bébés, analysent le regard des enfants ou encore le débit de flux sanguin dans leur cerveau. Lauriane Radfischer, elle, observe les bébés animaux pour mieux comprendre les bébés primates humains.
Je travaille à la fois sur l'animal et sur les bébés, et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs, puisque dans les deux cas, on est obligé de trouver des approches pour tester leurs capacités sans pouvoir les interroger directement.
Donc, si je comprends bien, Lauriane Radfischer, vous continuez à travailler en parallèle de vos études sur les bébés humains, donc les primates, vous dites primates humains. Sur les primates humains, ça fait bizarre quand même de dire primates humains, non?
C'est une habitude qu'on prend. C'est pas naturel, effectivement, mais on a souvent tendance, en fait, à opposer l'humain à l'animal. Mmh. Et en fait, ce que nous, on essaye de montrer, c'est que c'est un continuum. C'est comme tout, c'est un continuum. Donc, quand on parle d'humain, on parle d'animal humain et animal non humain. Effectivement, c'est pas forcément quelque chose de naturel, même pour les étudiants qu'on forme, c'est pas forcément naturel, mais progressivement, on leur apprend que on n'est pas une entité contre toutes les autres, quoi. On fait partie de ce continuum.
Mais ça veut dire que, à partir de quel âge vous parlez plus d'animal ? Parce qu'il y a un moment où on se distingue de l'animal, non ?
Alors, pas de notre point de vue. C'est un point de vue d'éthologue. Donc,
on est un animal que nous, les humains, nous sommes des animaux.
On est des animaux comme les autres, tout à fait. Oui. Alors, il y a beaucoup de recherches qui s'attellent à essayer de comprendre qu'est-ce qui est spécifique chez l'humain qui fait qu'on a ces capacités le fait qu'on soit aussi flexible, on résolve des problèmes. On essaie de comprendre ce qui fait la spécificité de l'humain. Et souvent, quand on fait ça, on va avoir tendance à opposer l'humain aux autres en se disant, voilà, l'humain sait faire ça et les primates, par exemple, non humains, ne savent pas faire telle ou telle capacité. Et donc, on essaie toujours de montrer en quoi on est supérieur. Et je trouve que c'est une approche qui est un peu dommage parce que souvent on s'est trompé. On a souvent tendance à sous-estimer les capacités des animaux parce qu'on les teste de notre point de vue, au lieu de se mettre à leur place. On est très anthropocentré. On a du mal à se projeter pour essayer vraiment de comprendre les autres espèces. Et en fait, il faut se placer dans l'environnement de l'espèce.
D'accord.
Et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait sens pour eux, parce qu'il y a des choses qu'ils ne sauront pas faire. Ce n'est pas forcément qu'une histoire de capacité cognitive. Ce n'est pas qu'ils ne pourraient pas le faire, c'est juste que ça ne fait pas sens dans leur environnement et que leur intelligence, finalement, n'a pas évolué de façon à ce qu'ils aient à développer cette capacité.
Il y a donc beaucoup de points communs entre les animaux et les êtres humains. Mais qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement, nous, humains, des autres animaux ?
Principalement, j'aurais dit, c'est la culture. C'est la culture et notre capacité à transmettre. À transmettre volontairement. On a du mal à le mettre en évidence chez l'animal. Il y en a. Mais c'est assez restreint et peu flexible. Alors que chez l'humain, on a vraiment cet aspect culturel. Il y a plein de choses qu'en fait, on ne saurait pas faire nous-mêmes, mais parce qu'on vit dans une culture où on se transmet les informations de génération en génération, on arrive construire, à évoluer très rapidement dans toutes nos capacités.
Voilà. Donc la grande différence, ce serait ça. Ça serait la transmission et l'apprentissage.
Et le langage, évidemment, aide à cette transmission.
Lauriane Radfischer est enseignante-chercheuse en neurosciences, éthologue et membre du Babylab de l'Université Paris-Cité. Avant de commencer ses recherches sur les bébés primates humains, Lauriane Radfischer a d'abord travaillé sur la coopération sociale chez les perroquets gris du Gabon. Elle cherchait à savoir s'il existait un lien entre l'intelligence sociale et la taille du cerveau de certaines espèces.
Par exemple, chez les mammifères, on a certaines espèces, notamment les primates, et les primates humains aussi, qui ont un ratio taille-poids du cerveau par rapport à la taille-poids du corps qui est plus élevée. Et on se demande en fait pourquoi, à quoi ça sert. Une des hypothèses, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on aurait ce ratio plus élevé, c'est pour gérer tout ce qui est relations sociales. On vit en groupes sociaux complexes et on a besoin en fait de capacités cognitives pour comprendre les relations entre les individus, pas seulement les relations entre soi et les autres individus, mais aussi les relations d'hiérarchie entre différents individus, etc. Et donc ça, c'est très important. Et donc, il y a plein d'études qui se sont intéressées à ça, aux espèces qui sont sociales, pour montrer qu'il y a un lien entre cette socialité complexe et leur capacité cognitive.
Et aussi le poids du cerveau.
Le poids du cerveau, la taille du cerveau. Donc, je vous ai cité les primates, mais on a aussi certaines espèces d'oiseaux très sociales, comme les corvidés.
Et les rats ?
Les rats, on a les dauphins, qui sont aussi plus élevés et qui sont en groupes sociaux assez complexes. Donc les perroquets aussi en font partie.
Et on pense, ça je ne savais pas, on pense que la taille du cerveau et le poids du cerveau est en relation avec l'organisation sociale de l'espèce.
Voilà, le fait que ce ratio soit plus élevé, parce que ça coûte beaucoup d'énergie d'avoir un gros cerveau.
Ouais.
Donc il faut que ça serve à quelque chose, sinon ça n'a aucun intérêt en fait. Et donc voilà, l'idée c'est d'expliquer que la taille du cerveau sert aussi à gérer les relations sociales.
Concernant ces relations sociales, Lauriane Radfischer s'est particulièrement intéressée aux comportements parentaux des animaux. Ses recherches nous permettent de mieux comprendre les mécanismes de l'évolution et enrichissent la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Lauriane Radfischer dispense d'ailleurs des cours à ce sujet à l'Université Paris-Nanterre.
J'ai aussi un cours de comportement parental, où là, en fait, je parle très peu de l'humain. Je parle de plein d'espèces différentes. Ça va des poissons, des insectes, jusqu'aux primates.
Des poissons ?
Oui, il y a des poissons qui ont des comportements parentaux et même des comportements paternels. Donc j'ai tout un cours sur le comportement paternel aussi chez l'animal, où on montre que c'est le père qui va créer un nid, pour, qui va oxygéner les œufs, qui va les protéger des prédateurs. Et la mère qui part. Voilà. Et j'essaie de les faire réfléchir aussi en termes d'évolution. Pourquoi ces comportements-là sont restés chez telle espèce? Pourquoi pas chez d'autres? Mais donc, il y a plein d'exemples comme ça dans le règne animal. Donc, j'ai tout un cours où je parle, par exemple, du manchot empereur. Parce que par le manchot empereur, on a pu comprendre le rôle de certaines hormones dans les comportements parentaux. On a beaucoup d'études, évidemment, chez les rats. Puisque, comme étant des mammifères, on peut aussi plus facilement faire le lien avec l'humain. Mais donc, il y a plein d'études que je cite sur le rat qui nous ont permis de mettre en place, enfin, de comprendre ce qui se passe au niveau hormonal. Parce qu'en fait, on a l'impression que nos comportements sont volontaires, mais très peu, en fait. Ils sont essentiellement biologiques. Alors, il y a une influence aussi des comportements parentaux que nous, on a eus sur notre façon d'être parents. Mais il y a tout un système hormonal qui se met en place aussi. Et comprendre ces interactions entre les hormones et l'environnement est en fait fondamental. Tout ça explique comment nous, nos comportements parentaux sont façonnés aussi en tant qu'humains. Mais on peut montrer par exemple que l'environnement a un effet très important sur le développement du cerveau chez les jeunes ratons. Donc le fait qu'on ait un environnement riche physiquement, qu'ils puissent aller explorer, qu'on ait un environnement riche socialement, qu'ils aient des relations sociales. Ça, c'est crucial pour le bon développement du cerveau chez les bébés rats. Et ça va influencer même leur comportement à l'âge adulte.
Cette recherche sur les animaux éclaire la manière dont se construisent nos cerveaux et nos comportements. Pour illustrer l'effet de l'environnement social sur le développement des cerveaux des bébés, Lauriane Radfischer m'a parlé d'une expérience dont les résultats ont été décisifs pour la science, mais qui a été très controversée sur le plan éthique. Il s'agit de la célèbre expérience du primatologue Harry Frédéric Harlow avec des bébés singes rhésus et des poupées en guise de mère de substitution.
Alors, les expériences de Harlow, d'un point de vue éthique, elles posent question maintenant. Elles ne seraient probablement pas répétables à l'heure actuelle, mais elles sont quand même cruciales pour comprendre tout ce qui est effet des relations sociales, de l'isolement. Donc, c'est des expériences où il a pris des macaques rhésus, il les a isolés à la naissance de leur mère, il leur a donné des mères de substitution. Donc, c'est-à-dire il leur a proposé c'était des mamans en fil de fer. Et donc, l'une d'elles était entièrement fil de fer et donnait un biberon. Donc, ils pouvaient aller se nourrir sur cette maman de substitution. Et l'autre n'avait pas de biberon, mais était recouverte d'un drap tout doux. Et ce qu'ils ont montré, c'est que ces bébés-là préféraient aller se réfugier sur la maman avec le drap, parce que le contact était vraiment...
plus doux.
Voilà, était plus doux et plus rassurant. Et n'allait sur l'autre maman de substitution que pour se nourrir et retourner ensuite sur la maman. Et puis après, plein d'expériences de ce style et qui ont montré que quand un jeune primate est isolé comme ça, il développe des troubles autistiques, des stéréotypies, plein de troubles dans les aptitudes sociales et même dans les comportements à l'âge adulte. Les comportements parentaux, par exemple, sont altérés. les comportements sexuels sont altérés, enfin plein de...
Ce qu'on sait pour nous aujourd'hui, ce qu'on sait pour les humains.
Exactement.
Maintenant.
Mais son idée au départ, c'était de le faire chez l'humain. C'est-à-dire qu'il allait dans les hôpitaux et il voyait qu'à l'époque, dans les hôpitaux, en tout cas aux États-Unis, les parents ne pouvaient pas rester avec leur enfant à l'hôpital quand ils étaient hospitalisés. Et il voyait que ça n'allait pas chez ces enfants-là. Et ce qu'il voulait montrer, c'était qu'il voulait en fait faire bouger les lignes.
Lauriane Radfischer a fait ses premiers pas dans le monde de la recherche en étudiant l'intelligence sociale chez les perroquets gris du Gabon. Puis son intérêt a glissé vers les bébés primates humains. Lauriane Radfischer étudie globalement la cognition et aussi le développement de cette cognition. Dans un premier temps, elle a cherché à comprendre le développement de l'utilisation de l'outil chez les bébés humains.
Alors j'ai commencé par les bébés. Donc avant la fin de la deuxième année de vie, ils utilisent très peu d'outils. Le premier outil qu'ils commencent à utiliser, c'est la cuillère. Et ça, c'est quelque chose de culturel parce qu'ils n'en ont pas besoin pour manger. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien utiliser les doigts, et donc c'est même assez difficile de ne pas leur faire utiliser. Et donc ça, c'est vraiment un outil qui est culturel, qui n'est pas forcément absolument nécessaire au départ. Nous, on commence à les tester sur une capacité qui est un peu complexe, c'est de la résolution de problèmes, parce qu'en fait, on va leur mettre quelque chose qui est hors de leur portée, on va leur donner un petit râteau, un petit bâton, et on va voir à partir de quel moment ils comprennent que tendre la main, ça sert à rien et qu'ils ont besoin, enfin, ils peuvent utiliser ce petit outil pour récupérer l'objet. Et donc ça, spontanément, avant la fin de la deuxième année de vie, il n'y a pas. Et ce qui nous a encore le plus surpris, c'est que même si on leur montre comment faire, ils ne vont pas l'imiter. À 18 mois, par exemple, donc un an et demi, on va avoir un tiers maximum des bébés qui vont nous imiter quand on leur montre ça. À 18 mois, c'est très tard. Parce que dès la première année de vie, ils imitent plein de choses. Mais l'utilisation d'outils, ça ne marche pas. Donc, dans la continuité de ma thèse, on a essayé de comprendre pourquoi ça ne marche pas, pourquoi même juste l'apprentissage social, ça ne marche pas, pourquoi quand on leur montre, ils n'apprennent pas. Et c'est comme ça que j'en suis venue à travailler sur l'humour. Parce qu'on sait que quand juste leur montrer quelque chose, ça ne va pas être suffisant. Il faut rajouter des indices dans cette démonstration. Donc ça peut être, par exemple, essayer de leur montrer notre intention d'abord de ramener l'objet, leur montrer qu'on n'y arrive pas avec la main, et du coup, d'utiliser l'outil ensuite. Et ça, on a vu que ça améliore l'apprentissage, on arrive à faire apprendre des bébés plus jeunes. Donc ce qu'on s'est dit, on va faire cette démonstration avec plein de manières différentes. Donc il y a une fois, on rapprochait l'objet, on jouait avec, une autre fois, on rapprochait l'objet, on le laissait tomber par terre. Et donc, certains bébés rient à cette démonstration. On a à peu près entre 30 et 50% des bébés. Et on a eu l'impression que ces bébés-là apprenaient mieux. Donc on s'est dit, on ne va pas rester sur cette impression, on va le tester.
Des bébés de quel âge ?
Alors, on a commencé avec des bébés de 18 mois. Parce qu'on avait ce 30% à 18 mois d'apprentissage par imitation. Et là, en faisant ça, chez les bébés qui rient, on est monté à presque 100% d'imitation chez les bébés qui rient.
Donc c'est ça qui vous a donné l'idée ensuite de travailler sur l'humour, chez les bébés ?
Oui, tout à fait. C'est arrivé comme ça.
Comme souvent dans la recherche, les nouvelles idées naissent des difficultés ou des échecs. Lauriane Radfischer a été une des premières chercheuses à s'intéresser au rôle de l'humour dans les apprentissages des bébés primates humains. Et c'est ce dont nous parlerons dans le prochain épisode de ce podcast. Quels sont les effets de l'humour sur l'apprentissage chez les bébés? Quand et comment les bébés apprennent-ils à percevoir et à produire de l'humour? Les super-pouvoirs des bébés est un podcast documenté par Anna Massardier, monté par Karen Dehay, mixé par Basile Bocquer et Baptiste Collion, réalisé par Josépha Lebrun et écrit par Zoé Varier. Les super-pouvoirs des bébés est un podcast original de France Inter.